J'aimerais qu'on fasse un premier constat ensemble, qu'on soit croyant ou pas croyant, la vie, c'est un combat. Quel que soit ce que l'on peut penser, ce à quoi on peut croire, dès qu'on est plongé dans le combat. Et donc c'est quelque chose qui est fondamental dans une vie humaine, et on nous apprend souvent à combattre charnellement. Quand je dis charnellement, c'est-à-dire avec nos propres forces, avec nos propres moyens, pour se faire une place dans la vie, une place dans la société, pour réussir, on combat. On combat à l'école, pour sauvegarder ses billes déjà, parce qu'on essaye de nous les piquer dès qu'on est petit. On combat à longueur de temps pour préserver nos acquis, et on combat aussi pour acquérir d'autres choses. Et je me souviens, quand je suis rentré au Crédit Agricole, comme responsable de la pub, quand vous rentrez dans la banque, on vous donne deux clés à molette. Une clé à molette pour déverrouiller le type qui est au-dessus et piquer sa place, et une clé à molette pour serrer votre siège, parce qu'il y en a un qui essaye de vous déboulonner pour vous prendre votre place. Donc on est en pleine guerre à longueur de temps, on est tout le temps en train de combattre, et je ne vous parle pas du combat pour les élections qui se déroulent, je ne vous parle pas de... Nous passons notre vie à combattre quelle que soit notre croyance. Nous sommes bien entraînés à ça, d'ailleurs, parce qu'on arrive à peu près à s'en sortir dans ce genre de combat charnel. On y laisse des plumes, on est souvent blessé, mais spirituellement, bizarrement, on nous entraîne assez peu au combat spirituel. Il semble que l'onction de notre baptême suffit à faire de nous des combattants. Et l'expérience nous prouve, et je crois que nos prêtres qui confessent le savent encore mieux que nous tous, on est très très souvent blessé dans notre vie. Et c'est assez intéressant de voir que nous sommes blessés dans les combats que nous menons, et nous sommes blessés par la vie elle-même. Et c'est très très beau, je trouve, l'image qu'a donnée notre pape. Je ne sais pas si vous l'avez vue, cette image qu'il nous a donnée. Il voit l'Église comme un hôpital de campagne après la bataille. Alors ça m'a beaucoup plu, cette image, parce que j'étais en pleine écriture du combat spirituel, et il annonce cette image, il voit ça, et il montre qu'on est blessé par les illusions du monde. C'est ce qu'il rappelle, d'ailleurs il rappelle ça aux prêtres cette semaine, oui. On est blessé par les illusions du monde, par les problèmes matériels qui nous blessent dans notre vie, et par les scandales, puis certainement aussi par beaucoup d'autres choses, mais en tout cas... Beaucoup de personnes sont blessées dans le combat de la vie et on prend obligatoirement des coups. Alors, pour aller au combat, je crois qu'il y a quatre choses que j'aimerais souligner, parce que nous allons nous voir quatre fois pendant le carême. Je crois que le premier point pour aller au combat spirituellement, il faut savoir pour quelle cause on se bat. Il faut qu'on soit très très clair sur cette question-là, ce sera l'objet de ce que je vais essayer de vous faire percevoir aujourd'hui, dans ce que j'ai pu en percevoir en tout cas. Deuxièmement, ce qui est important, c'est de choisir son camp et de rejoindre une unité de combat, j'ai envie de dire. C'est important de faire un choix, et on verra comment faire ce choix dans les enseignements que le Christ nous donne. Troisièmement, ce qui est capital, c'est de ne pas se tromper d'ennemi. Quand on va à la bataille, il ne faut surtout pas commencer à tirer sur nos propres troupes. Quand le pape nous dit, admettons, cessez de médire entre vous dans les paroisses, cessez de médire dans vos communautés, cessez de dire du mal les uns des autres, parce qu'on se tire dessus, quoi. On se fait du mal les uns les autres. Donc, c'est important de bien identifier l'ennemi. Et puis, quatrièmement, c'est connaître les armes que le Seigneur met à notre disposition. C'est-à-dire, quand on parle d'armes, c'est vrai que ça peut paraître guerrier pour une religion qui se veut être la religion de l'amour. Mais c'est important de savoir les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Alors ce carême pourrait être un bon entraînement pour combattre. On va s'entraîner pendant le carême et puis on combattra bien pendant le temps ordinaire. Parce que le temps ordinaire est beaucoup plus long dans l'année et ça va nous permettre d'être beaucoup mieux armés. Alors qu'est-ce qui a déclenché chez moi le fait que j'ai envie de parler du combat spirituel? C'est qu'un jour, en lisant saint Paul, la première épître à Timothée au chapitre 1, au verset 16 ou 18. Paul dit à Timothée, il l'invite à livrer le bon combat. Et je me suis dit, tiens, s'il y a un bon combat, ça veut dire qu'il y en a un mauvais. J'ai commencé un peu à regarder dans ma vie et je me suis rendu compte, de fait, qu'il y avait des manières de se comporter qui nous amenaient à livrer de mauvais combats. Et ce mauvais combat, je lui ai donné un nom, c'est le conflit intérieur. Nous avons l'impression souvent de combattre spirituellement, mais en réalité, nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Et nous ne sommes pas des combattants, nous ne combattons pas, nous ne nous battons pas, en réalité, nous nous débattons. Nous passons notre temps à nous débattre. Et ça, c'est quelque chose dont il nous faut impérativement sortir. Et le conseil de Paul à Timothée est très éclairant à ce sujet-là. Alors, il y a trois choses qui nous handicapent dans le combat. C'est premièrement, un jour on m'avait demandé de donner un enseignement dans un groupe de prière au Lys, et je passe par Évry, je prends l'autoroute et je passe devant le magasin Ikea. Alors moi, le Seigneur ne me parle pas clairement, mais d'un seul coup, il y a des intuitions qui vous viennent, et l'intuition qui est venue, c'est qu'on était des chrétiens Ikea. Alors, ça peut paraître un peu surprenant d'être un chrétien Ikea, mais un chrétien Ikea, c'est quoi? C'est très très simple. Notre foi, à notre baptême, on nous l'a livrée en kit, et il faut que nous la montions, notre foi. Or, nous faisons, en ce qui concerne le domaine spirituel, exactement comme nous faisons quand nous achetons des meubles chez Ikea, c'est-à-dire on a vu le meuble, on le trouve bien, et on le monte sans regarder la notice, les trois quarts du temps. Sur le paquet, c'est marqué « montage 20 minutes », 4 heures après, on y est encore, et en se disant « il a un défaut, ce meuble », puis ça se termine toujours avec une porte de placard de travers, on fait avec, elle ferme mal, elle ferme pas bien. De toute façon, il a un défaut, le meuble, hein. C'est Ikea, là, le fautif. Là, dans ce cas-là, c'est Dieu qui est fautif, si on n'y arrive pas, voilà. Le Seigneur nous a donné une notice de montage. Vous relisez, si vous avez le temps pendant le carême, le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7 de Matthieu, c'est notre notice de montage. Il y a une manière de monter les choses, il y a un ordre pour construire notre foi dans notre tête et dans notre cœur. La deuxième chose, et le pape François a insisté là-dessus, c'est ce qui nous handicape, c'est de ne pas mettre Jésus au centre de notre vie. Le pape François nous l'a rappelé en disant qu'il y a une tentation pour nous chrétiens d'être chrétiens sans Jésus. C'est-à-dire on va essayer d'être des gens sympathiques, des gens bien, des gens qui nous comportons bien, mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Un bon communiste, c'est parfait aussi. Un athée qui a un sens de la générosité, c'est très bien aussi. Être chrétien, ça demande vraiment quelque chose de particulier. J'ai envie de dire, si je veux résumer, parce que ça me touche beaucoup, c'est d'avoir une vie eucharistique. Et une vie eucharistique, c'est pas de consommer des hosties tous les dimanches. Une vie eucharistique, c'est de tout faire, comme le prêtre nous le montre au moment de la petite élévation, c'est-à-dire par lui, avec lui et en lui. Tout faire par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Mettre Jésus au centre de notre vie. Et puis le troisième point qui nous handicape, c'est de ne pas connaître les moyens que Dieu met à notre disposition. Souvent, nous sommes dans une grande méconnaissance par manque de formation à la vie spirituelle. C'est vrai qu'on ne nous enseigne pas tellement comment faire pour essayer de vivre chrétiennement, en dehors, bien sûr, d'avoir une vie morale convenable, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours garanti. Alors, je voudrais revenir simplement sur un seul point qui est le point central d'aujourd'hui, c'est savoir pour quelle cause on se bat. C'est pas la peine de rentrer dans le combat spirituel si on ne sait pas pour quelle cause on se bat. Alors ce que je vais faire, c'est réciter devant vous le Notre Père, et je vous demande de l'écouter avec attention, ce Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui cloche dans ce Notre Père ? Que ta volonté soit faite. Thérèse d'Avila dit que quand on arrive à « que ta volonté soit faite », on ferait mieux de ne pas le prononcer plutôt que de le prononcer sans vouloir la faire. Bon, Thérèse d'Avila, c'était une Espagnole, elle n'y allait pas par quatre chemins. Que ta volonté soit faite, c'est quoi ? Que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous devenions saints. Savoir pourquoi on se bat, c'est vouloir être saint. Si on ne veut pas être saint, ce n'est pas la peine de dire à Dieu que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est d'abord en nous que ça doit se passer. Donc si on ne veut pas être saint, ce n'est même pas la peine de... On peut faire un... Ma femme m'a acheté des confitures allégées l'autre jour. C'est très bien, la confiture allégée. On peut faire des Notre Père allégées. On peut enlever un verset parce qu'il nous dérange et puis éventuellement le remettre à l'intérieur si on en a envie. Mais ce qui est capital, c'est d'être en concordance de cœur avec ce que le Seigneur désire pour nous. Alors, pour ceux que la sainteté horripile, parce que je sais que chez beaucoup de chrétiens, être saint, vraiment, ça horripile. Pourtant, c'est une demande qui est faite dès le livre du Lévitique, au chapitre 19 du Lévitique, « Soyez saints parce que je suis saint », nous dit le Seigneur. Bon, alors, il y a la sainteté. Après, Jésus nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », dans Matthieu, chapitre 5, verset 48. Puis pour ceux vraiment que la sainteté horripile, que la perfection, ça ne leur convient pas, Jésus est tellement sympa qu'il nous a dit « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». Donc on a le choix, voyez, selon nos goûts, selon ce qui nous bloque et ce qui nous empêche d'avancer, on a le choix entre la sainteté, la perfection et la miséricorde. Voilà, donc au choix, le Seigneur est bon avec nous. Il nous laisse, selon nos goûts, choisir ce que l'on veut comme forme de réponse à l'appel qu'il nous donne. Alors on se dit, mais la sainteté, c'est un truc réservé aux mystiques, aux moines, aux moniales, aux anachorètes, aux curés, mais pas pour nous, quoi. C'est pas possible. Donc il faut vraiment que nous arrivions à lever cette ambiguïté dans nos têtes, dans nos cœurs. De plus, on a tous cherché à être saints, surtout dans notre jeunesse d'ailleurs. Je sais pas, on avait tous à 13, 14 ans, 8 ans, 9 ans, un désir de sainteté très très fort pour la plupart d'entre nous. Essayons de nous souvenir de ça. Mais on s'est résigné, pourquoi ? Parce qu'on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé parce que on a essayé avec nos propres moyens. On s'est découragé. Et il y a une petite pointe d'amertume en nous parce qu'on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel quand même. On a renoncé peut-être à cet appel profond. Et ce qui est important pour nous en ce temps de carême de lever, c'est que si Dieu nous appelle à être saints, c'est qu'il nous donne en même temps les moyens de le devenir. Si Dieu nous appelle à être saints, il nous donne l'Esprit Saint. C'est pour que nous devenions saints comme il est saint. Donc c'est vraiment la volonté de Dieu. Alors, cessons de dire que c'est impossible d'être saint. Sans nous en rendre compte, en réalité, quand nous disons ça, ben nous sommes victimes de l'intox de notre ennemi, le diable, qui fait tout pour que nous ne soyons pas saints et que nous ne portions pas du fruit pour la vie éternelle. Il ne peut pas nous mettre à mort spirituellement parce que nous avons reçu le baptême et que le baptême est indélébile. Mais il peut nous empêcher vraiment de porter du fruit pour la vie éternelle. On peut passer une vie à ne pas porter de fruit pour la vie éternelle. Parce qu'il nous intoxique. Il nous intoxique et il nous dit que nous ne sommes pas capables d'être saints. Alors reconnaissons que de fait, être saint, ça nous est impossible. Reconnaissons-le officiellement, ouvertement. Mais c'est impossible avec nos propres forces. Avec nos propres forces, nous ne pouvons pas être saints. Nous pouvons être saints qu'avec la grâce du Seigneur, qu'avec la force du Seigneur. Et Jésus nous dit dans Matthieu, au chapitre 19, verset 26, « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. » Et c'est bien à cet appel de Dieu que nous devons nous référer. C'est à cet appel de Dieu que nous devons répondre. Et ce n'est pas simplement à notre sentiment ou aux inspirations de l'adversaire, le diable, qui essaye de nous empêcher de devenir saints. Thérèse d'Avila dit que ce qui est important, ce qu'elle demandait à ses sœurs, c'est une chose essentielle, c'est d'avoir un grand désir. D'avoir dans le cœur un désir très fort, un ardent désir. Et je crois que ce qui est important peut-être en ce début de carême, c'est de se dire, est-ce que nous avons l'ardent désir de devenir saints ? Et si nous ne l'avons pas, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, demander au Seigneur la grâce de désirer ce que lui-même désire, que sa volonté soit faite en nous, c'est-à-dire que nous devenions saints comme il nous demande de le devenir, chacun exposant des formes de sainteté différentes. La petite Thérèse de Lisieux est devenue une grande sainte parce qu'elle a désiré devenir une grande sainte. Alors c'est sûr que si elle avait ce désir dans son cœur, c'est que Dieu l'y appelait, mais nous avons tous cet appel à la sainteté parce que nous avons tous reçu le baptême. Donc il faut oser vouloir être saint et ne pas se fier à ce qu'on va dire, ben quand même, tu ne vas pas vouloir être saint. Beaucoup de gens se moquent si nous disons que nous avons le désir de la sainteté. Eh bien, Thérèse d'Avila nous dit, ayons un grand désir. Et si nous avons ce grand désir en nous, si nous le laissons brûler en nous, eh bien, nous pourrons répondre à l'appel que Dieu nous lance de devenir saint comme il est saint et avec les moyens qu'il nous donne, c'est-à-dire avec la grâce de l'Esprit Saint qui nous est donné en abondance. C'est la seule chose dont on est sûr que nous sommes exaucés. Hein ? Si nous qui sommes mauvais savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus le Père nous donnera l'Esprit Saint si nous le lui demandons. Alors quand on veut peindre une pièce en bleu, on achète de la peinture bleue. Quand on veut peindre une pièce en jaune, on achète de la peinture jaune. Quand on veut être saint, on prend de l'Esprit Saint.